enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Un cœur guéri, une nouvelle vie, et c'est donc ce matin ma troisième partie. Permettez-moi de lire le texte qui nous a porté pendant cette méditation. Luc chapitre 4, les versets 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et le psalmiste dira au psaume 103 « Mon âme bénit l'Éternel. » Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dans un premier temps, nous verrons ensemble le processus de guérison. Mon second point sera « Apprenez à penser selon Dieu ». Et mon troisième, et ce sera ma conclusion, entrer dans la vie nouvelle. Je voudrais peut-être simplement résumer ce que nous avions vu très courtement. Il y a à votre disposition les cassettes audio, vidéo, des messages précédents, si vous désirez avoir les messages précédents. Mais pour pouvoir faire le résumé, j'ai besoin d'une assistante. Et j'appellerai ce matin, c'est la fête des mères, n'est-ce pas ? J'aimerais avoir comme assistante, j'hésite entre deux femmes. Je vais choisir exceptionnellement une autre, Dominique. J'appelle Suzanne Peterschmidt à être mon assistante, c'est la fête des mères. Je vais lui faire sa fête. Nous avions constaté que bien des croyants n'entraient pas pleinement dans la vie que Dieu avait préparée pour eux. Ce constat, eh bien, nous avait amené à réaliser qu'ils en étaient là parce que leur cœur était brisé. Et nous avons vu ensemble, au travers de Luc 4, le processus de destruction. D'abord, les cœurs sont brisés. Brisés par une parole, brisés par un acte, et je m'arrête là. Deuxièmement, à cause de cœurs brisés, les pensées deviennent captives, de faux raisonnements s'établissent et de là découlent de mauvais fonctionnements. Troisièmement, ces mauvais fonctionnements entraînent et engendrent des réactions autour de ceux qui sont blessés, qu'ils ne sont pas toujours en mesure d'interpréter et ils sont à ce sujet-là aveugles. Et puis pour terminer, ça se finit dans l'oppression. Opprimés, empêchés de s'épanouir et d'entrer dans ce que Dieu veut qu'ils soient. Nous avions pour cela pris une image, vous souvenez-vous ? Eh bien, je reprends mon image, ce cœur. Et je vais demander à ma maman de le tenir. Elle sera mon assistante. Est-ce qu'elle n'est pas belle, ma mère ? Attendez. Nous avions dit que certaines paroles pouvaient blesser un cœur. Des paroles comme « tu ne seras jamais rien » pouvaient blesser un cœur. J'avais fait cette prédication en Suisse, j'avais emmené un couteau, mon épouse tenait, 3000 personnes dans l'assistance, et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le couteau a traversé la pomme. Et alors que je parlais de la guérison, nous avons provoqué une blessure. Je veillerai donc à ne pas répéter la même chose. Certains actes de violence. J'ai vu des enfants qui me disaient, moi je ne sais pas pourquoi on me corrigeait, parce que la correction et se faire battre était un mode de fonctionnement chez nous. Et c'est une autre blessure. L'autre jour, alors que j'étais en Suisse, un homme est venu et m'a dit, monsieur, je suis détruit depuis ma plus tendre enfance. Le résultat, c'est que je vais de psychiatrie, d'hôpital psychiatrique en hôpital psychiatrique. J'étais enfant, j'étais dans des structures pour enfants où j'ai connu la violence. On me faisait même manger ce que je vomissais. Et ce sont de nouvelles marques dans le cœur. C'est un mari infidèle, une femme infidèle, et c'est autant de blessures. C'est des enfants qui vous font du mal en vous reniant. C'est peut-être un père, une mère qui vous a complètement abandonné. Mais souvenez-vous, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Yamiashiv, Morsten. Voilà, merci. Merci. Joyeuse fête. Ça, c'est le résumé de ce que nous avions vu. Maintenant ça, je crois qu'en Christ, cela peut changer. Vous n'êtes pas tenu de vivre avec un cœur brisé. Vous n'êtes pas tenu de terminer votre vie et de voir votre vie conditionnée aujourd'hui et votre avenir être défiguré par le passé. Christ est celui qui nous libère et je vous rappelle que ce texte, je vais laisser cette pomme en évidence pour les caméras, voilà, de temps en temps, ils pourront la fixer. Le Seigneur dit dans Luc 4 qu'il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Et l'année de grâce était l'année du jubilé. On la faisait connaître au son de la trompette. C'était un temps de joie et de festivité. Toutes sortes de choses se passaient à ce moment-là. Mais entre autres, une extrêmement importante, les esclaves, quels qu'ils soient, retrouvaient leur liberté. Et je crois ce matin que cette journée qui est une journée de fête pour les mamans peut devenir une journée de fête pour des cœurs brisés parce que le Seigneur est encore celui qui délivre et qui libère les esclaves. Arrivons à mon premier point, le processus de guérison. Lorsque nous avons parlé de maladie du cœur, de quoi parlions-nous? Lorsque David dit « Mon âme bénit l'Éternel », il termine, il guérit toutes tes maladies. C'est bien des maladies de l'âme qu'il s'agit. Elles peuvent être rejet, crainte, dépression, angoisse, incapacité de vous laisser aimer, sentiment que vous n'arriverez jamais à rien, des colères incontrôlées qui se manifestent, insécurité, non-acceptation de vous-même, etc., etc. D'ailleurs, certaines des maladies de l'âme sont liées au corps. Et vous avez des gens malades dans leur corps parce qu'ils sont tout simplement malades dans l'âme. Alors permettez-moi une lecture. Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Je crois que la proclamation de la parole de Dieu et le respect de cette dernière engendre la santé pour l'âme et pour le corps. Il est celui qui nous guérit. Et dans ce sens-là, j'aimerais simplement lire un témoignage courtement. C'est ma sœur Vira qui est là. Et voilà ce qu'elle écrit. Je voudrais donner mon témoignage pour vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi et qu'il fortifie ceux qui passent par une épreuve difficile comme celle que j'ai connue. C'est par sa force et son amour que j'ai pu passer des années difficiles. Ma maladie a débuté en 2002, j'ai laissé accumuler cette maladie car je ne voulais plus vivre. J'avais déjà une sclérose qui est très difficile en elle-même à supporter. Et comme j'ai perdu mon frère Lucien en 2003 d'un cancer, ayant vu ses souffrances, la chimio, la radiothérapie, je me suis fixé une idée, ne pas passer par les soins médicaux. Mais le Seigneur en a décidé autrement pour moi. Fin 2003, je suis allé consulter mon médecin qui a diagnostiqué un cancer des intestins et un cancer déjà très avancé. J'ai subi deux opérations en 2003. Après cela, la chimio a démarré. Au bout de 4 chimio, on a opéré une troisième fois, une intervention qui a duré 7h30. Après cela, encore 8 chimio. À la fin de mon traitement, le médecin s'est assis sur le bord de mon lit pour m'annoncer une grande nouvelle, que la médecine m'avait déjà condamné, que je n'avais plus que quelques mois à vivre, malgré tous les traitements, malgré les interventions, mais qu'il n'en revenait pas, il ne comprenait pas ce qui s'était passé, puisque notre sœur a été guérie. Et elle écrit dans son courrier quelque chose d'important. Elle a vu le ciel. Et je me souviens, lorsque j'étais allé voir notre sœur, chose qu'elle ne savait pas, son mari savait qu'elle était condamnée, et il pleurait terriblement. Il m'avait appelé en me disant, « Mais le chirurgien était même dur avec nous. » Il était très dur en disant, « Peut-on attendre aussi longtemps ? » Cependant, quand vous connaissez l'historique, vous comprenez l'attente. Et à cette époque-là, ma sœur ignorait tout de cela, mais Marcel pleurait. Et pour nous, notre sœur était condamnée. C'était sans appel. Et je vais la visiter à Altkirch. Et quand j'arrive, je la vois lumineuse, rayonnante. Elle me dit, Samuel, c'est extraordinaire. Alors que j'étais réveillé dans mon lit, j'ai eu une vision. J'ai vu une maison. Une maison comme on n'en voit pas ici. Elle dit, ma maison à côté, c'est rien. Pourtant, elle est déjà bien. Elle me dit, il n'y a rien de comparable. Je suis entré dans cette maison et tout d'un coup quelqu'un m'a dit, entre là, tu vas changer de robe. Et elle me dit, on m'a mis une robe comme jamais encore j'en avais une. Et elle me dira, une paix était là et un repos comme on n'en connaît pas sur la terre. Après cela, elle me dit, quoi qu'il arrive, je me réjouis de voir le Seigneur. Elle ne savait pas qu'elle était condamnée, mais elle était prête à partir à ce moment-là. Elle avait vu le ciel. Elle avait déjà vu ce qu'elle deviendrait. Le Seigneur a eu compassion de toi, ma petite sœur, mais je crois également de Marcel. Tu es là au milieu de nous et nous voulons célébrer son nom. Mais un jour, cette maison, on la verra. Et moi, je viendrai te visiter et tu me feras un café. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Il est celui qui guérit. Oui. Alors ma sœur tenait à vous dire que malgré des chimios qui étaient quand même relativement fortes, sa prière a été « Fais-moi grâce que je ne perde pas mes cheveux. » Elle est là, elle les a tous. Enfin tous. Elle les a tous gardés. Attends, lève-toi voir, comme si ils voyaient un peu la. Revenons à notre texte. Il guérit le corps, mais il guérit également l'âme. Et l'âme guérie engendre souvent la guérison du corps. Deux étapes qui me semblent essentielles dans le processus de guérison. Première étape, la confession. La confession. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce texte, je crois, s'applique à ceux qui sont malades dans leur corps, mais s'applique également à ceux qui souffrent dans leur âme. Permettez-moi de vous donner simplement la définition du terme confesser en hébreu, yada, en grec, homologeo, c'est-à-dire dire la même chose, ne pas contester, admettre. La confession, c'est deux choses. C'est l'action de faire profession de sa foi en Dieu. C'est l'action de confesser ce que je suis en Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Oui, j'ai un passé, mais en Christ, je deviens une nouvelle créature. Deuxième chose, elle est la déclaration des péchés. Quels péchés ? Je commencerai par ceux que nous avons commis. La confession est celle qui nous amène à reconnaître nos péchés. Mais elle est également celle, et j'insisterai sur ce deuxième point, qui nous amène à confesser ce que nous avons subi. Pouvoir commencer à vider son cœur, à parler. Lorsque je confesse ce que j'ai subi, lorsque je confesse ce que j'ai souffert, déjà l'action de Dieu commence à se faire. Voyez David, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Dans le livre des Proverbes, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est pour celui qui pêche. Mais nous avons tous pu être victimes du péché de quelqu'un d'autre. Il est important de pouvoir en parler. David dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Dernièrement, dans un entretien, un jeune homme vient me voir. Il me dit, monsieur, il ne fréquente pas l'église, n'est pas croyant dans le sens où on pourrait l'entendre. Il me dit, monsieur, entre les envies de suicide et les actes de violence, entre les moments où je suis attiré vers le nazisme et les moments où il me semble que ma vie n'a aucun sens, j'ai envie de mourir. Et nous avons parlé ensemble tout un temps et je crois que je le reverrai encore. Elle me dit soudain, ma vie a été détruite le jour où mon père a dit à ma mère, en me faisant ce gosse, tu m'as fait un con. J'ai entendu ces mots-là, j'étais petit. Et ils m'ont suivi. C'est la première fois qu'il pouvait parler. Première fois. Il dit, nous ne nous connaissons pas. Mais aujourd'hui, il était essentiel, capital pour moi, que je puisse dire ce qui est en train de me détruire intérieurement, ce qui est en train d'anéantir ma vie et la vie de ceux qui m'entourent. J'ai eu besoin de parler, confesser, ami. C'est parler, parler à Dieu, oui, mais parfois aussi à un vis-à-vis. Parfois, c'est parler à Dieu, j'entre dans le secret de ma chambre, et là, je lui parle, oui, je lui dis quels sont mes torts, mais je lui dis aussi ce qui m'a blessé. Quand tu entres dans le secret de ta chambre, que tu fermes là ta porte, j'aimerais te dire que ton Père, qui est dans le ciel, te voit là dans le secret de ta chambre. et tu communies et tu communiques avec lui. Parle-lui de ce qui te tenaille. Parle-lui de ce qui te fait souffrir. Exprime, laisse sortir tout ce qui t'a blessé, et ceci depuis des années. Nous avons parfois besoin de vis-à-vis. Nous avons chanté tout à l'heure, nous sommes frères et sœurs en Jésus. Nous avons chanté, je prie pour toi, tu pries pour moi. Nous avons chanté, je t'aime de l'amour du Seigneur. Jusqu'à où sommes-nous suffisamment capables de nous aimer pour entendre la souffrance de l'autre? Ensuite, pour ne pas le juger dans sa souffrance. Troisièmement, pour couvrir éventuellement, si nécessaire, son péché. Celui qu'il a subi et celui parfois qui, parce qu'il a subi tel genre de péché, l'a amené lui-même à en commettre d'autres. Les uns n'excusant pas les autres, mais les uns nous emmenant à comprendre ce qui peut défigurer la vie d'un homme. Jésus donne une parabole. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 uns semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit au docteur de la loi: va et toi fais de même. Et ce matin, Jésus te dit: va et toi fais de même. L'Église a besoin de Samaritains. L'Église a besoin d'hommes et de femmes capables de s'arrêter dans la course de la vie pour écouter la souffrance de leurs prochains. L'Église a besoin d'hommes et de femmes, non pas qui viennent faire la morale à celui qui est tombé sur le chemin. Le Samaritain ne lui a pas dit: c'était pas sage de t'aventurer tout seul, c'était pas intelligent de te déplacer à cette heure-ci. Non, le Samaritain ne se préoccupe pas: qu'est-ce qui a emmené cet homme de cette façon-là sur ce chemin? A-t-il été sage ou non? Le Samaritain ne s'en préoccupe pas. Il ne voit qu'une chose: un homme qui est là et qui gît à moitié mort. Et la Bible nous dit qu'il eut compassion de lui. Et ensuite, il s'approcha. Il s'approcha. Frères, sœurs, il s'approcha. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, face à ceux qui ont été blessés, la réaction que nous avons n'est pas de nous approcher, mais de nous éloigner. Parce que nous nous disons: qu'est-ce qui va encore pleurer? Nous avons peur de ceux qui souffrent. Parce que nous ne savons pas toujours quoi leur dire. Alors nous fuyons. Nous feignons de ne pas les avoir vus. Vous, moi, pouvons être assimilés à ces sacrificateurs. Vous êtes, je suis, nous sommes un peuple de sacrificateurs avec Dieu. Chacun d'entre nous est un sacrificateur. Quel genre de sacrificateurs serons-nous ce matin? Quel genre d'hommes, de femmes sommes-nous? Quand nous croisons le blessé du chemin, sommes-nous émus de compassion? Sommes-nous capables de nous approcher de lui? Ou au contraire, trop occupés, nous le laissons coucher? Ce récit est valable pour hier, pour l'époque de Jésus. Mais peut-être qu'il est encore plus important aujourd'hui, parce que rarement tant de blessés se sont trouvés le long du chemin. Quelqu'un disait un jour, au sujet de l'Église en règle générale, que l'Église était la seule armée à achever ses malades et ses blessés, au lieu de les soigner et de les relever. Je crois que dans cette église, il y a des samaritains et des samaritaines. Je ne dis pas confessez-vous à n'importe qui, n'importe comment, non, surtout pas. Je ne dis pas déchargez-vous sur les autres comme l'on pourrait se vider. La solution, ce n'est pas que vous vous vidiez sur quelqu'un qui lui sera écrasé avec le fardeau que vous lui donniez, mais que vous découvriez des hommes et des femmes de Dieu qui entendront votre détresse, qui ne seront pas écrasés par votre souffrance, mais qui prendront le temps pour vous accompagner jusqu'à votre guérison. Confessez, parlez. Alors certains me disent, oui, mais Samuel, tu es inaccessible, nous on veut avoir un entretien avec toi. Nous sommes une armée de sacrificateurs. Nous sommes tous appelés à travailler. Tout seul, c'est impossible. Et Dieu ne veut pas travailler avec un homme. Il veut travailler avec son peuple. Mon frère, ma sœur, ce matin, y a-t-il des samaritains ici? Y a-t-il des hommes qui sont prêts à dire « Je vais freiner mon rythme. » Non, je ne vais pas m'éloigner de celui qui souffre. Non, je ne vais pas l'ignorer. Je vais l'écouter. Je sais que chacun a sa vie. Chacun a sa charge de travail. Chacun a sa famille. Je le sais. Mais combien de temps perdu parfois à des choses vaines et inutiles, alors qu'à côté de cela, le blessé est en train de mourir sur le chemin. Ô Dieu, lève des samaritains et des samaritaines au milieu de nous. Ô Dieu, lève des hommes et des femmes capables d'écouter. Et vous qui êtes blessés, commencez à parler. Parler, c'est déjà commencer, disait quelqu'un, à guérir. Parler, c'est déjà permettre à certaines blessures, à certains pics qui sont entrés en nous, de sortir. Parler. Deuxième chose, pardonner. Deuxième point sur le chemin de la délivrance, de la guérison. Si vous pardonnez, dit Jésus, aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner n'est pas simple. Pardonner n'est pas facile. Cependant, la haine, la rancune, l'amertume sont autant de points et de vices qui restent dans votre cœur. Et à ce moment-là, c'est vous qui les maintenez. Lorsque je refuse de pardonner, en d'autres mots, je garde volontairement ce qui m'a blessé dans le cœur. Non, il n'est pas facile de pardonner lorsqu'on a été violé en tant qu'enfant. Non, lorsqu'une vie a été détruite, ce n'est pas facile. Cependant, si vous voulez guérir, il faut que vous acceptiez qu'il n'y a qu'un chemin. Et celui-là, Jésus nous le propose, c'est le pardon. Lorsque vous avez une épine dans la main, elle s'infecte. Vous avez beau sortir la saleté, vous avez beau mettre de la crème, si vous ne sortez pas l'épine, elle se réinfectera autant de fois que vous l'avez nettoyée. Et c'est ce qui m'explique que certaines personnes restent des hommes et des femmes blessés. Jésus est venu pour guérir et l'œuvre de la croix est parfaite. Il a dit « Tout est accompli ». Il n'y a rien à rajouter. Mais il y a à obéir. Et l'obéissance passe par le pardon, même quand celui-ci n'est pas facile. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur le pardon. Chers amis téléspectateurs, voulez-vous guérir ? Pardonnez. Pardonner, c'est enlever ce qui vous a blessé. C'est sortir ce qui vous a détruit. C'est renoncer. Renoncer à le garder. Renoncer à ressentir la souffrance. Renoncer. Si c'était facile, cela se saurait. J'ai vu des hommes et des femmes me dire « je pardonne » en pleurs. J'ai vu des hommes et des femmes me dire « je pardonne » en hurlant. J'ai vu des hommes et des femmes me dire « je pardonne » en criant, en ayant même l'impression que pardonner c'était trop facile et injuste. Maintenant que vous avez décidé de pardonner, allons à notre deuxième grande étape. Changez, disciplinez-vous à penser selon Dieu. Deuxième point, pensez selon Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure, les blessures de nos cœurs engendrent en nous un système de pensée qui s'érige comme une forteresse et de laquelle nous sommes prisonniers. Je ne reviendrai pas là-dessus, le temps nous manque. Cependant, dans les messages précédents, je l'ai développé. Aujourd'hui, ce que je désire, c'est vous dire d'abord, lorsque nous venons à Christ, eh bien nous recevons également la pensée de Christ en nous. Il nous appelle à penser autrement. Dans 2 Corinthiens 10, il est dit « car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Apprenez à proclamer la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais attention, proclamez la parole avant même que vous n'ayez eu le temps de confesser et surtout de pardonner ne sert de rien. La proclamation de la parole s'inscrit dans une logique de guérison. Je confesse. Je m'engage dans le processus de pardon, c'est-à-dire que chaque fois que l'amertume voudrait reprendre le dessus, je dis non à l'amertume parce que j'ai décidé de pardonner. Pardonner, c'est pas un interrupteur qu'on tourne qui vous fait voir en ange le démon qui vous a blessé. Non, pardonner, c'est refuser de nourrir votre cœur avec des pensées de haine, des pensées de vengeance, des pensées qui viennent vous infecter. C'est un chemin. Et de temps en temps, vous serez nouveau confronté à des sentiments qui s'élèvent en vous contre lesquels vous lutterez. Ça, c'est le pardon. Il arrive le moment où vous sentez que vous êtes guéri. Et après, à peine, changez votre manière de penser. Confessez. Pourquoi je dis à peine après ? Parce qu'avant, ce n'est pas possible. Tant que vous avez une vis dans le cœur, ça fait mal. D'accord ? Il faut que ce qui vous est blessé soit d'abord sorti. Ensuite, vous pouvez commencer. Confesse que tu es en Christ. Écoutez ce que dit Paul. Au lieu de vous apitoyer sur vous-même, vous décourager, vous révolter, laissez la crainte venir. Paul dit, ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne. Et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature. Et la vieille nature, c'est cette nature blessée. Que ces désirs trompeurs mènent où ? À la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Me soumettre à Dieu, c'est penser et déclarer ce que Dieu dit. Paul dira au reste frères que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Un exemple, une personne qui a été constamment trahie dans son passé, qui a été blessée, meurtrie à cause de cela. Tu as confessé, tu as décidé de pardonner, tu es dans ce processus. Maintenant, tu vas proclamer la parole. Tu es confronté à quelqu'un et les pensées reviennent. De toute façon, c'est un hypocrite, c'est comme les autres, il va aussi me rouler. Au lieu de laisser cette pensée venir, tu vas dire, l'amour croit tout et ne soupçonne pas le mal. Au lieu de laisser ces pensées anciennes te conditionner et t'amener à avoir une attitude qui éloigne les autres de toi et que tu plonges dans une souffrance plus profonde encore, commence à parler la parole de Dieu. Quand la pensée vient parce que tu as été rejeté, parce qu'on t'a traité de toutes sortes de noms, personne ne m'aime. Quand la pensée vient, réponds à Satan. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Comment est-ce que Jésus a résisté à la tentation dans le désert ? Par la parole. Par la parole. Par la parole. Le temps passe vite. J'arrive à la fin et à ma conclusion. Pardonnez-moi si j'ai dû être un peu, en guillemets, caricatural. Les choses prennent beaucoup plus de temps que cela. Cependant, mon troisième point, ma troisième partie et ma conclusion, entrez maintenant dans la vie nouvelle. Vous avez confessé, vous avez pardonné, vous proclamez la parole et vous laissez votre intelligence être renouvelée par la parole de Dieu. Maintenant, agissez. Au paralytique, Jésus dit « Lève-toi et marche !» Le paralytique aurait pu dire « Jésus, jamais de la vie, je n'ai encore fait cela !» C'est à partir du moment où il a agi que la guérison a trouvé sa place. Il y a des choses que vous ne faites plus depuis longtemps ou que vous n'avez jamais fait parce que vous dites intérieurement « On m'a dit que je suis un incapable, je n'arriverai jamais à rien !» Peut-être certains ne se sont jamais remariés parce qu'ils ont vécu un adultère, ont été trompés et diront aujourd'hui « tous les hommes sont pareils » ou « toutes les femmes sont pareilles ». Commencez à confesser les choses autrement. Et si au fond de vous-même, vous sentez que vous avez le désir de rebâtir quelque chose, certains peut-être sont heureux seuls, c'est possible. Commencez à dire « Seigneur, je veux croire que tu peux me donner quelqu'un de fidèle ». Agis. Toi qui es là et qui n'as jamais rien entrepris parce que tu te dis, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis... Commence à faire. Commence à faire ce que tu ne pouvais jamais faire. Commence à croire que tu vas, toi, exprimer tout le potentiel que Dieu a mis en toi et qui était étouffé, opprimé à cause de tes blessures, des pensées qui s'en dégageaient, du comportement que tu avais. Il y a dans certains hommes et dans certaines femmes des trésors de capacités étouffés sous une chape de crainte, de peur, de jugement. Quand ces chapes est ôtée, ces hommes et ces femmes font et réussissent des choses que peu de personnes ont faites avant eux. Entre dans le pays promis. Que dit le Seigneur ? Que dit l'ange à Josué ? Tout d'abord, dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ... Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Et elles sont en train de devenir nouvelles. C'est l'année de grâce du Seigneur. Peux-tu saisir cela ? Deuxièmement, tu es en route vers le pays promis, ton pays promis. Ton pays promis. Chacun a un pays promis. Est-ce que vous êtes conscient de cela ? Moi, je suis convaincu que chacun d'entre nous a un pays promis. J'ai mon pays promis. Papa Jean a son pays promis. Moi j'ai mon pays promis, j'ai pas envie de rester au bord du Jourdain à pleurer le restant de ma vie en me disant si seulement il y a 40 ans on n'avait pas râlé, si seulement on avait eu une autre attitude, non j'ai pas envie de ça, j'ai envie de dire Seigneur, oui j'ai fait des fautes, oui on m'a fait du mal, mais maintenant je te le confesse, maintenant je pardonne et Seigneur j'entre dans le fleuve et je crois que ce fleuve, ce Jourdain qui est devant moi comme une impossibilité, tu vas me le faire traverser par miracle. Je vais entrer dans le pays promis. Et comme Josué, je vais croire que toute terre que foulera la plante de mes pieds, tu me la donnes. tout domaine intérieur, toutes les émotions incontrôlées, tous les sentiments incontrôlés, toutes les craintes, les peurs qui t'étouffent, qui t'écrasent, tu vas les entreprendre. Tu vas marcher, tu vas entreprendre ton terrain et tu vas entrer dans ton pays promis. Est-ce que ça veut dire que tout sera parfait dans ton pays promis ? Non, non, non. Il a suffi de traverser le Jourdain pour que Jéricho soit là. Mais tes Jéricho, tu les renverseras. Est-ce que tu réussiras toujours ? Peut-être pas. Il y aura peut-être des haïs. La ville Haï, qui semble être un détail, a été un échec. Mais tu apprendras à te relever. Le juste tombe cette fois l'Éternel le relève. Frères et sœurs, ce matin, prends possession de ton pays. Fais ce que tu ne faisais plus. Agis. Et alors tu verras sa gloire. Le résultat, ce sont des cœurs guéris. Quand, regardez la différence entre un cœur guéri et un cœur blessé. Un instant, j'arrive. Hein. Chers téléspectateurs, ayez de la patience. Voilà. Est-ce que vous avez envie de la manger, celle-là ? Hello ? En général, quand on essaie de mordre sur une telle pomme, qu'est-ce qu'on fait ? On se casse les dents. Parfois, quand les gens ont le cœur brisé et qu'on s'approche d'eux, vous savez ce qu'on se fait ? Vous avez déjà cassé les dents ? On se casse les dents. Il est parfois nécessaire d'attendre, d'être là, disponible, on les voit blessés, leur proposer tranquillement notre aide. Ensuite, il y a une démarche que seul vous qui êtes blessé pouvez faire. Vous approcher, dire « j'ai besoin ». Mais un cœur guéri, regarde. On en a envie, surtout à midi moins le quart. T'as envie de ça. T'as envie d'être avec un chrétien comme ça. J'ai envie d'être avec lui. Dominique m'a déjà dit, j'ai envie de je prends un autre mot, hein. Ou bien je peux le dire franchement. J'ai envie de te bouffer. Qu'est-ce que c'est bon d'être guéri ! Qu'est-ce que c'est bon d'être avec des croyants restaurés ! Et qu'est-ce que c'est glorieux quand des croyants restaurés, à leur tour maintenant, s'arrêtent et deviennent des Samaritains. Fermons nos yeux un instant. Peux-tu venir au piano ? Pourrions-nous nous lever ? Frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes en train de participer à cette émission, je crois que pour plusieurs, ça peut être le jour de grâce de l'Éternel. Mais je vais le laisser lui agir avec vous. Ce matin, j'ai deux appels à ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais dire, nous vous aimons. Oh, peut-être avons-nous été maladroits, pardonnez-nous. Pardonnez-nous nos maladresses. De votre côté, acceptez peut-être également que vous n'êtes pas toujours très facile. Cependant, nous vous aimons. Que Dieu vous donne sur votre route des Samaritains. Que l'équipe pastorale peut être, mais pas seulement l'équipe pastorale, que les leaders de cellules peuvent être, mais pas seulement les leaders de cellules, que les membres ou que les leaders de groupes de jeunes, d'école du dimanche peuvent être, mais pas seulement, que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à devenir des Samaritains. Qui ne détournent pas leur regard de leur prochain, qui s'arrêtent auprès de lui, qui ne le jugent pas, qu'importe ce que tu as fait. Je suis là pour couvrir une multitude de fautes, parce que l'amour de Dieu est en moi. L'amour couvre une multitude de fautes. Des hommes et des femmes qui feront les efforts nécessaires, qui seront prêts de donner de leur temps, voire de leurs moyens, pour qu'ils soient guéris et restaurés. Ô Père, suscite des Samaritains. Je voudrais que nous devenions tous des Samaritains. Je commence par moi. Pardonne-moi les fois où j'ai détourné le regard. Pardonne-moi les fois où, peut-être aussi fatigué, je n'ai pas été ce que tu attendais de moi. Père, viens au secours de mes frères, de mes sœurs ici. Nous reconnaissons nos faiblesses, parfois notre incapacité de nous arrêter, pris dans la course de la vie. Nous oublions les blessés. Ce matin, suscite des cœurs nouveaux au milieu de nous, des priorités nouvelles. Au lieu de passer 2 heures, 3 heures pour des choses matérielles qui rouilleront, qui se détruiront un jour, prendre du temps pour quelqu'un en qui nous investissons pour l'éternité, une âme vivante dans laquelle le Saint-Esprit agit. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Recevez son repos. Recevez sa paix. Dieu, puisse-t-il guérir les cœurs brisés? Puissiez-vous suivre ces différentes étapes? Que mon Père dans le ciel suscite au milieu de nous beaucoup de Samaritains. Beaucoup de Samaritains.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.